Face à une saison de pêche particulièrement difficile, Claudio Bernacci, directeur général de l'association des capitaines propriétaires de la Gaspésie, soulève l'urgence d'un soutien gouvernemental. Avec des captures dramatiquement basses et une situation économique précaire, les pêcheurs appellent à un programme de rachat de permis et un fonds d'urgence fédéral. Les difficultés de dialogue avec le gouvernement fédéral amplifient la crise, mettant en péril l'avenir des pêcheurs dans des conditions actuelles insoutenables. Nous en discutons avec Claudio Bernacci.
Ce qui est intéressant de se rappeler, c'est que depuis 2020, il y a 5 espèces dans toutes les ressources halieutiques du Saint-Laurent qui ont été mises en situation de moratoire. Tu sais, en 2020, on nous avait annoncé un moratoire dans le Crabe des Neiges de la zone 12B, qui est au sud de l'île d'Anticosti. Le printemps suivant, en 2021, on nous a annoncé un moratoire sur le hareng de printemps et le maquereau. Ensuite, en 2022, on avait annoncé des moratoires sur la limande à queue jaune et la plie rouge. Puis finalement, l'an passé, en 2023, on a réalisé qu'il y avait presque plus de turbots à pêcher, avec des taux de capture de 7,8%, et que le déclin dans la crevette s'était accentué, avec des taux de capture de 40%. Donc cette année, on entreprend une saison de pêche avec des gens qui n'ont tout simplement pas suffisamment de ressources à pêcher pour faire leurs frais. Et ça contribue à créer la situation qu'on commence à qualifier de catastrophique dans le milieu, parce que de plus en plus de bateaux vont rester sur les blocs, et c'est le cas présentement. Et d'autres qui sont incertains pour le moment pourront peut-être mettre à l'eau. Et c'est surtout pour l'an prochain où, s'il devait y avoir encore un déclin au niveau du crabe des neiges dans la zone 12, ben ça va faire en sorte que des crabiers non traditionnels dans cette zone-là vont voir leur revenu diminuer à un point tel que ils vont être dans une situation de se demander s'ils continuent à exercer ce métier-là pour certains là. Donc c'est préoccupant la situation actuellement, parce que je regarde là, à travers ma fenêtre et je vois des bateaux qui définitivement n'iront pas à l'eau ce printemps. Je vois un peu d'activité sur le quai de Rivière-aux-Nord parce que là il y a des débarquements au niveau du Crabe des Neiges, mais quand la saison du Crabe des Neiges va être terminée, et ça va venir quand même assez rapidement, ben on va retrouver un quai qui est supposément situé dans la capitale des pêches du Québec, qui va être déserté, qui va être extrêmement tranquille, comme on avait commencé à le voir l'été dernier.
Et qu'en est-il de cette idée que, il n'y a pas si longtemps, on avait l'impression que le Sébaste allait sauver la situation? On en est rendu où avec cette histoire-là?
Ben, la situation du Sébaste est complexe et simple à la fois. C'est-à-dire qu'il y a énormément de ressources de Sébaste dans le Saint-Laurent. Assez pour faire vivre plusieurs entreprises de pêche côtière, pour faire vivre des travailleurs d'usines dans plusieurs usines du Québec maritime. Mais malheureusement, le gouvernement fédéral, en 2018, alors qu'il prévoyait déjà réouvrir graduellement la pêche au Sébaste, a choisi de ne pas le faire, pour différentes raisons. Et ça fait en sorte que le Sébaste, même si certaines personnes aimeraient dire que ça n'a pas eu d'impact sur la crevette, ben ça a eu un impact clair, avec une consommation annuelle frôlant les 200 000 tonnes. A eu un impact aussi fort probablement au niveau du turbo, parce que ces trois espèces-là se retrouvent assez régulièrement dans les mêmes endroits. Donc, la crevette, le turbo, le sébaste. Alors, quand tu as une espèce comme le sébaste qui est présente en aussi grande quantité, ben elle a un impact sur son environnement, sur les autres espèces, en diminuant, par exemple, la quantité de nourriture disponible pour tout le monde. Puis la nourriture disponible, ça peut être la crevette, évidemment, mais ça peut être d'autres choses aussi, des petits poissons ou peu importe. Donc, l'impact qui était prédit par les scientifiques du MPO depuis 2016 et qui a été validé et corroboré à tous les 2 ans, 2018, 2020. Même le dernier avis scientifique qui est sorti l'été dernier, en 2023, a clairement démontré l'évolution de la situation et à chaque fois mettait en garde le MPO face à l'impact écologique important qu'aurait le Sébaste sur son environnement. Et malgré tous ces avis scientifiques-là, le MPO, le gouvernement du Canada, a choisi de faire la sourde oreille à ses propres scientifiques et a attendu en janvier 2024 pour annoncer une ouverture graduelle d'une pêche commerciale au Sébaste dans un contexte d'urgence où tu as des flottilles, plus précisément celles des crevettiers et des turbotiers, qui sont déjà trop impactées et qu'on se demande jusqu'à quel point il n'est pas trop tard pour renverser la tendance. Donc, c'est des gens qui, tant sur les bateaux que pour certains travailleurs d'usine, parce qu'on l'a vu l'été passé ici avec une usine en particulier qui peinait à faire travailler ces gens parce que le turbo n'était tout simplement pas présent. Ben c'est toutes des personnes qui voient leur gagne-pain à risque ou sinon qui doivent prendre la décision de tout simplement délaisser l'industrie des pêches, que ce soit en mer ou sur terre, et de se tourner vers une autre source de revenus pour répondre à leurs besoins.
Parce que quand on entend que ce qui est préconisé, c'est la nécessité d'un programme de rachat, par exemple, des permis ou d'un fonds d'urgence aussi, mais surtout par rapport au rachat de permis, ça veut dire en gros que c'est quand même un peu, on vend notre permis, mais c'est pour pas y revenir, dans le fond. J'entends que la situation est rendue là, quoi.
Exactement, parce qu'il y a dans certaines pêcheries, surtout lorsque tu es mono-espèce, c'est-à-dire que tu as juste une espèce à pêcher, dans le cas de certains crevettiers, parce qu'il ne reste plus de quotas suffisants à pêcher, ben ils ne peuvent pas espérer vivre de ça. Donc, le choix qu'ils ont, c'est de laisser le bateau sur les blocs, ou peut-être espérer sortir de l'industrie tout simplement par un processus de rachat de permis. Et ça, là-dessus, le gouvernement libéral du Canada devra finir par avouer que la façon dont ils ont géré la situation dans les pêches dans les dernières années est la cause directe de ce qu'on observe présentement. Puis c'est plate d'en arriver à dire ça, mais à quelque part, c'est ça. Tu sais, si on n'avait pas d'éléments d'information ou de données nous permettant d'affirmer ce que je dis présentement, mais j'en parlerai pas. Tu sais, je me fie tout simplement à tout ce qui est sorti de la part des sciences depuis 2016, comme je disais tantôt, et il était clair qu'il fallait agir. Donc là, on l'a pas fait. Le gouvernement du Canada ne l'a pas fait. Donc maintenant, pour essayer d'atténuer les impacts sur certaines communautés côtières, bien, il est clair qu'il y a des mesures qui doivent être prises pour essayer de corriger la négligence dont ils ont fait preuve au niveau de la gestion dans les pêches.
Est-ce que si on peut l'appeler comme ça, cette crise, c'est comme un creux qui va. Des fois, on traverse une crise, puis on revient à quelque chose. Est-ce que toi, comment tu vois l'avenir ou la perspective à long terme pour la pêche en général, on va dire, dans notre secteur?
Il est difficile de prévoir le futur présentement parce que de façon claire, il ne ressemblera pas à ce que c'était il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans ou avant. On fait face à des enjeux, des défis au niveau de la gestion des pêches, et j'en parlais juste avant de la part du ministère de Pêche Océan Canada. Mais aussi, il y a quand même certains facteurs environnementaux qui viennent brouiller les cartes pour certaines espèces, nommément dans le cas du crabe des neiges, dont je parlais aussi auparavant. Alors, de quoi aura l'air l'industrie des pêches dans juste 5 ans? Je crois qu'on devra commencer par faire le deuil de ce qu'elle était, parce que ça a toujours été une industrie basée sur le volume. avec des grandes quantités pêchées, grandes quantités transformées et grandes quantités exportées à l'extérieur aussi. Donc, ça a été le même modèle, à peu de choses près, qu'on voyait il y a 500 ans lorsque les premiers Européens sont arrivés sur nos berges et ont pêché autant qu'ils pouvaient avec les moyens du temps pour exporter la très, très grande majorité de leurs prises, vers l'Europe. Donc, le modèle doit changer. Le modèle doit probablement s'inspirer de ce qu'on a vu ailleurs aussi, où des gens ont eu à vivre ce qu'on a commencé à vivre ici, avec des déclins marqués dans plusieurs ressources, et ont dû apprendre à moins pêcher, moins transformer, mais être capable quand même d'en soutirer un revenu et d'en faire un gagne-pain. Alors, comment on va s'y prendre? Je ne sais pas encore, mais il est sûr que nos réflexions doivent aller vers ça. Nos réflexions doivent être empreintes d'innovation à travers ce qu'on fait, d'être à la recherche d'espèces qu'on va commencer à exploiter à petit volume, créer des marchés de niche probablement, en faire profiter plus les populations canadiennes et en ayant probablement moins de pêcheurs qu'on en avait allé jusqu'à il n'y a pas longtemps. Parce que présentement, le Saint-Laurent ne peut plus supporter autant de pêcheurs.
Est-ce que cette idée du fonds d'urgence pourrait aider à passer au travers de cette année, peut-être qui est plus difficile, pour avoir une possibilité de se revirer de bord vers une autre direction, un peu comme tu la nommes en ce moment?
Le fonds d'urgence, tu sais, c'est sorti dans les médias. On n'en a pas parlé beaucoup à l'interne, je te dirais. On aimerait plus miser sur des mesures qui soient porteuses dans le temps, qui permettraient de restructurer l'industrie, entre autres, en permettant la rationalisation de certaines flottilles. Est-ce que le fonds d'urgence viendrait aider à faire patienter les banquiers, les institutions financières qui supportent des prêts quand même importants chez plusieurs pêcheurs? Si ça fait partie du panier de solutions pour le long terme, oui, pourquoi pas. Mais il faut vraiment avoir une réflexion qui soit plus longue. Et présentement, ce qui est malheureux, c'est que malgré les perches qu'on a pu tendre au niveau du gouvernement canadien, il est difficile d'avoir le suivi qui permettrait de pousser plus loin les réflexions et de vraiment se positionner pour aider à restructurer l'industrie et faire en sorte qu'on puisse continuer d'avoir des opérations de pêche et de transformation et de valorisation et de commercialisation avec des nouvelles espèces, avec moins de volume, comme je disais tantôt. Mais il y a une réflexion à y avoir. Puis présentement, il y a des belles idées qui sont lancées, mais je pense qu'on aura besoin à très court terme de trouver du temps pour s'asseoir tout le monde, puis de cogiter là-dessus, puis d'arrêter de repousser des décisions qui doivent être prises lorsqu'il faut avoir le courage de les prendre.
J'ai pas trop. J'avais une question sur l'ambiance et le moral dans les troupes, entre guillemets, pour dire, toi qui côtoie quand même beaucoup les pêcheurs, j'imagine c'est pas l'ambiance qui est au plus haut, mais quand même, est-ce que tu sens du positivisme ou est-ce qu'il y a quelque chose ça se discute entre vous? Comment ça c'est quoi l'ambiance?
Ben, il y a évidemment, la situation génère beaucoup d'anxiété, là. Tu sais, on ne se cachera pas qu'il y a des gens qui dorment moins bien. Puis tu sais, à travers tout ça, les pêcheurs ont la réputation dans le milieu d'être des gens à l'aise, pour certains, des gens fortunés. Puis il est vrai, puis c'est tant mieux qu'il y en ait qui ont réussi dans ce domaine-là, puis ils ont des belles retraites. Mais il faut jamais oublier que ces gens-là sont à la base des investisseurs dans les entreprises de pêche et que lorsque ça va moins bien ou que ça va mal, ben c'est des gens qui sont à risque de perdre beaucoup. Alors, il y a ça qui est très, très anxiogène. En même temps, je vois beaucoup de, ben, je vois un peu de résilience aussi chez certains, parce qu'il y en a qui se voient pas faire autre chose, puis ils veulent continuer, puis ils veulent y croire. Mais force est de constater qu'on observe clairement là, un ralentissement au niveau de l'économie rattachée au monde des pêches. Et même chez les entreprises qui sont en service auprès des entreprises, auprès des pêcheurs, eux aussi voient la diminution. Puis même dans l'ensemble des commerces là, dans la Rivière-du-Nord ou même jusqu'à Gaspé, là, on observe là, une diminution de l'économie parce que les gens, soit ont moins de moyens financiers pour continuer à avoir un impact dans leur milieu. Ou sinon, pour certains, ben, commencent à vouloir faire plus attention, voyant ce qui se passe depuis quelques années, là.
Ouais, ça fait vraiment
Non,
une boule de neige là.
ben oui, c'est ça fait boule de neige, c'est sûr. Mais à travers tout ça, tu sais, je veux dire qu'on a la chance quand même d'avoir des partenaires dans le milieu avec des bailleurs de fonds, de différents ministères qui veulent prévoir une après-crise, qui veulent aider le milieu à se prendre en main, puis à entrevoir un futur qui va être, comme je disais tantôt, différent de ce qu'il était, mais il y aura quand même un futur là, dans tout ça ici, mais on a beaucoup de pain sur la planche.
Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site internet.